Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien pendant cette période d'automne. Non? On se croit pas en été quand même. Et pourtant, on a nommé avec David la série de l'été que nous allons vous proposer. On aurait dû l'appeler la série de l'automne. Mais bon. Comme on a vu, le Seigneur règne dans nos vies, il est le soleil dans nos cœurs, par son Esprit Saint. Alors aimez-vous les séries? Non, bah, apparemment personne n'aime les séries. Moi je vais vous dire une chose, j'aime les séries mais je les regarde pas, parce qu'elles sont tellement prenantes et on en devient tellement esclave. Et je me connais, alors j'en ai vu très peu, mais dès que j'en commence une, je veux toujours... arriver à la fin et savoir ce qui se passe. Alors au maximum, j'essaye de pas en regarder. Par contre, la série qu'on va vous proposer, c'est une série qui donne envie de savoir et de connaître l'épisode suivant. Donc cette nouvelle série que nous allons commencer va nous amener jusqu'à septembre, vu que nous allons parler des attributs de Dieu. Les attributs de Dieu, ils sont nombreux. Donc, chaque attribut va demander un message et donc un dimanche. Alors, c'est des sujets, c'est un sujet important, mais c'est aussi un sujet compliqué parce que nous sommes des humains. Nous sommes des personnes finies et nous avons une intelligence limitée, alors que Dieu, lui, n'est pas limité. On l'a chanté que Dieu était grand. Vous avez chanté aussi quoi? Change-nous par ta parole. Alors ce matin, nous voulons aussi que Dieu nous change par sa parole en le connaissant davantage. Malheureusement, nous allons survoler ce que nous appelons les attributs de Dieu. Alors pourquoi je parle d'un survol? Ben, comme je viens de le dire, au regard de ce qui est Dieu, nous ne pourrons jamais ici-bas connaître profondément et à 100% tous les aspects des attributs de Dieu. Et l'une des raisons tient justement à un de ces attributs. Dieu est infini. Dieu est infini. La définition de ce qu'est l'infinité, c'est que c'est une chose qui n'a jamais de fin. Donc on comprend facilement que ce que nous allons voir sera qu'un survol, mais qui va quand même nous permettre de mieux connaître qui est Dieu. Il nous faudra donc l'éternité pour connaître Dieu. En d'autres termes, nous ne cesserons jamais de découvrir qui est Dieu. Et comme je le dis, c'est par définition l'infinité, c'est qu'il n'a pas de limite et qu'il ne se termine jamais. Donc pendant l'éternité, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer, mais nous allons continuer à connaître notre Dieu, qui il est. Nous allons continuer, comme il a été lu dans Apocalypse, le louer, le glorifier, élever son nom. Plus on connaît le caractère d'une personne, et mieux on la connaît, mieux on la comprend, et mieux on peut comprendre son comportement, ses réactions. Prenons un exemple tout simple de la vie. Le mariage. Le mariage, pour ceux qui sont mariés et ceux qui souhaitent un jour se marier, écoutez bien aussi. Même si nous avons eu un temps plus ou moins long de fiançailles pour se connaître, on ne peut pas dire qu'au début de notre mariage, nous connaissions notre femme ou notre mari aussi bien qu'après 5 ans, 10 ans, qu'après 15 ans, qu'après 20 ans, ou qu'après 26 ans de mariage. Et je m'arrête là car Margot et moi sommes mariés depuis 26 ans. Vous aurez bien compris. Nous avons appris au fil des ans à mieux nous connaître. Cette connaissance a forcément un impact sur notre relation et notre façon de nous comporter avec notre époux ou avec notre épouse. Il en va de même avec la croissance de notre connaissance que nous avons de Dieu. Forcément, au début, notre connaissance était faible. Mais plus nous avons grandi, cheminé avec Dieu, lu, médité sa parole, plus notre foi a grandi. Et notre foi, non seulement a grandi, mais notre connaissance de Dieu aussi a grandi. Alors, cette série sur les attributs de Dieu doit nous permettre de grandir dans notre relation avec lui. Connaître les attributs de Dieu va nous permettre de mieux le connaître, de qui il est, comment il agit et comment est-ce qu'il peut impacter nos vies. Cette série va nous permettre de progresser dans la connaissance de qui est Dieu et comment il agit. Cette meilleure connaissance de Dieu sera aussi bénéfique pour nos relations fraternelles. Parce que vous savez que Dieu nous a créés à son image. Donc nous reflétons l'image de Dieu. Et nous avons un Dieu trinitaire. Nous avons un Dieu relationnel. Nous avons un Dieu qui aime avoir des relations. Donc nous de même, nous sommes aussi en relation les uns avec les autres. Et à travers ces relations, nous glorifions aussi Dieu, puisque nous agissons, ou je vais dire, nous devrions agir comme l'image de Dieu. Mais vous savez que c'est compliqué, notre orgueil est souvent encore là, et nous empêche souvent d'agir comme Dieu voudrait que nous agissions. Mais gloire à Dieu, nous avons Jésus-Christ qui nous pardonne nos fautes, qui nous pardonne nos mauvais comportements dans nos relations. Lisons dans Romains 1, versets 19 et 20. Romains, chapitre 1, versets 19 et 20. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Dieu s'est révélé aux hommes en partie grâce à sa création. Il a ainsi montré qu'il existe bien un Créateur. Si on prend la création, si on prend l'univers que Dieu a créé, on se rend compte que c'est quelque chose d'infini. Si on prend les plus petites choses de cette terre, on s'aperçoit que tout est fait dans un ordre, que tout a été déjà écrit, et on s'aperçoit qu'effectivement, il y avait un architecte derrière pour mettre toutes ces choses en place. Mais nous savons aussi que Dieu s'est révélé dans les Écritures. Dans la Bible, nous pouvons connaître davantage le caractère de Dieu en méditant justement sur ses attributs. Pour connaître le caractère de Dieu, comme je l'ai dit, il nous faut connaître ses attributs. Nous pourrions dire que les attributs de Dieu sont les différents aspects du caractère de Dieu. Alors, il ne s'agit pas d'éléments qui s'ajouteraient à l'être de Dieu. Et il ne s'agit pas non plus de composantes de l'être de Dieu. En disant les attributs de Dieu, nous disons ce qu'il est, dans toute sa plénitude et de façon absolue. Nous disons ce qu'il est, ce qu'est son être dans sa totalité. Chaque attribut caractérise tout l'être de Dieu. un exemple simple qu'on connaît bien, l'amour. Et on dit « Dieu est amour ». Dieu est amour dans sa totalité et de façon absolue. Donc ce n'est pas des éléments qu'on rajoute à Dieu. Ce n'est pas non plus des attributs, un ensemble de composantes qui ferait que Dieu est. Non, Dieu est ses attributs. Dieu est amour, Dieu est éternel, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, etc., etc. Alors les théologiens classent en deux parties les attributs de Dieu. Premièrement, les attributs incommunicables. Et deuxièmement, les attributs communicables. Alors, Kesako, vous allez me dire, qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez voir avec des exemples, c'est très simple à comprendre. Alors, commençons par les attributs incommunicables. Un de ces attributs, c'est l'omniprésence de Dieu. Ce qui veut dire, Dieu est partout présent. Mais nous ne pouvons pas être présents, être présents qu'à un seul endroit à la fois. Dieu est immuable, c'est-à-dire que Dieu ne change pas, contrairement à moi, contrairement à vous. L'éternité de Dieu. Dieu existe de toute éternité, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons été créés et chacun d'entre nous avons une date de naissance. Prenons maintenant des exemples sur les attributs communicables. J'en ai déjà parlé, l'amour. Dieu est amour. Or, nous sommes aussi capables d'aimer. La connaissance. Dieu détient toute la connaissance. Nous sommes capables, au fil des années, d'acquérir des connaissances. La compassion. Dieu est compatissant. Nous sommes capables de faire preuve de compassion. La justice. Dieu est juste, or nous pouvons aussi nous montrer justes. Alors une fois que l'on a dit tout cela, il faut modérer nos propos, car les attributs de Dieu ne nous sont pas entièrement communicables. Par exemple, Dieu étant un Dieu infini, si nous prenons sa sagesse infinie, nous ne pourrons jamais atteindre le même niveau de sagesse que Dieu. Pourtant, nous pouvons agir avec sagesse dans nos vies. Donc Dieu, oui, partage certains de ses attributs dans une certaine mesure, mais jamais complètement. Alors ce matin, nous allons survoler l'attribut de l'éternité de Dieu, en nous appuyant bien sûr sur les Écritures. Voyons ce que dit la parole sur cet attribut au psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ici, dans ce verset, nous confrontons à une notion que nous avons du mal à saisir en tant qu'être humain. Moi, j'arrive à comprendre une partie de l'éternité. L'éternité, c'est quelque chose qui ne finit jamais, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Celle que je comprends, et je pense que c'est celle que vous comprenez aussi, c'est l'éternité future. Il est facile pour nous de s'imaginer que l'éternité future n'aura jamais de fin et qu'on vivra éternellement dans la présence de Dieu. Mais quand il s'agit de comprendre l'éternité passée, Là, mon cerveau, il bug. Là, si on s'arrête 2 minutes, on a du mal à comprendre qu'il y avait une éternité passée. Savoir que Dieu est éternel, qui n'a pas de début ni de fin, nous fait comprendre une chose, que Dieu a toujours existé. Savoir cela nous permet de dire que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais que l'humanité est la conséquence de la volonté d'un Dieu créateur. Nous sommes le fruit de l'amour de Dieu, qui nous voulait et désirait que nous nous occupions de sa création en toute dépendance avec lui. Ici, personne n'est le fruit du hasard. Car Dieu, avant qu'il ne crée l'univers, il avait pensé à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous. Lisons dans le psaume 139, verset 16. Le psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Nous voyons que Dieu a créé l'humanité parce qu'il la voulait. Il l'a créée par amour. Il voulait que nous nous occupions de la terre qu'il nous avait léguée et que ainsi nous puissions dépendre de lui à 100%. Malheureusement, vous le savez, le péché est intervenu, la chute est venue et nous avons brisé cette relation avec Dieu. On peut lire aussi dans Jean, au chapitre 17, verset 5, ce que Jésus dit. Jean, chapitre 17, verset 5. Et maintenant, Père, revêts-moi de la gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi, avant quoi ? Avant les origines du monde. Nous voyons aussi dans ce verset que Jésus, qui est Dieu aussi, existait aussi depuis toute éternité. Souvenez-vous comment Dieu s'est présenté à son peuple. Lorsque Moïse lui a posé la question, mais que dirais-je à ton peuple lorsqu'ils vont me poser cette question, qui es-tu? Ou quel est ton nom? Est-ce que vous vous souvenez de ce que Dieu a répondu? Il a répondu, je suis. Dieu se présente à son peuple sous son attribut de l'éternité. Il se nomme « Je suis », ce qui implique qu'il peut toujours dire « Je suis » et donc qu'il existe toujours et depuis toujours. Réponse étonnante de la part de Dieu, non? Vous ne trouvez pas? Si on se met à la place du peuple de Dieu qui est en train de vivre depuis 400 ans sous l'esclavage des Égyptiens, depuis 400 ans, les Israéliens sont maltraités par les Égyptiens. Ils n'en peuvent plus. Et cependant, Dieu se présente à eux en disant « Je suis ». Dieu se présente, comme je l'ai dit, à son peuple par son éternité. Il se présente en leur disant « Je suis éternel ». Moi, à la place des Israélites, j'aurais préféré entendre d'autres attributs, pas vous? Quel attribut vous auriez voulu entendre? Je suis le roi. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Bien, je l'avais noté. Un autre? Si on se remet dans le contexte des Égyptiens, en esclavage, qui attendent un libérateur. Je suis le libérateur. Je suis l'Éternel des armées. Eh bien non, Dieu décide de se présenter sous son éternité. Alors j'ai réfléchi, c'est mon interprétation et comment je le vois. On peut comprendre que Dieu, en se définissant dans son éternité, montre que tout ce qu'il est, il l'a toujours été, et qu'ainsi, en lui, il n'y a aucun changement. Aussi bien il peut dire « je suis éternel », aussi bien il peut dire « j'ai toujours été amour », »,« j'ai toujours été fidélité », »,« j'ai toujours été Dieu Tout-Puissant ». Cette connaissance de Dieu qui doit nous apprendre à le craindre et à le révérer, elle se trouve dans qui est Dieu et dans son caractère. Dieu se présente comme un Dieu éternel, un Dieu qui a toujours existé, en qui il n'y a ni début ni fin. Et comme je vous l'ai dit au début, là mon cerveau commence à bugger lorsque j'essaie d'imaginer ce que c'est l'éternité passée, lorsque j'essaie de m'imaginer que Dieu a toujours existé. Et comme on l'a chanté, cela montre combien Dieu est grand. Notre connaissance du caractère de Dieu à travers ses attributs nous montre à quel point Dieu nous aime, quel Dieu puissant il est, et qu'au final, nous ne sommes pas grand-chose. Lorsqu'on essaye de se comparer à Dieu par rapport à son éternité, par rapport à sa toute-puissance, sa toute grandeur, on s'aperçoit vite que nous sommes qu'un grain de poussière. Et cela montre et amplifie l'amour que Dieu a pour nous et a eu pour nous. Nous qui étions insignifiants par rapport à ce que Dieu est, il a quand même décidé de venir et de nous sauver. Et savoir que Dieu est éternel est aussi rassurant. Car cela veut dire que son amour est aussi éternel et qu'elle ne s'arrêtera jamais. Une fois que nous serons réunis avec lui, que nous régnerons avec lui, son amour continuera. Savoir que Dieu est éternel est rassurant parce que cela veut dire que sa fidélité est aussi éternelle. Et donc, ce que Dieu a dit, et toutes les promesses qu'il a dit, il y sera toujours fidèle. C'est rassurant de savoir qu'il est éternel, parce que forcément sa justice est aussi éternelle. Sa nouvelle alliance est aussi éternelle. Bref, que tous les attributs de Dieu sont aussi éternels. Mais on peut aussi parler d'un autre attribut qu'on n'aime pas entendre. On peut aussi parler de la colère de Dieu, qui est aussi éternelle. Mais sa colère nous garantit que ceux et celles qui n'ont pas voulu de Dieu de leur vivant seront séparés des rachetés de l'Éternel. Mais tous ceux qui ont cru dans l'œuvre rédemptrice de Jésus seront sauvés. Car la seule justice que Dieu reconnaît, c'est celle qui a été rendue lors du sacrifice de son Fils à la croix. Comme Paul l'écrit dans Philippiens, au chapitre 3, verset 9. Philippiens, chapitre 3, verset 9. Mon désir est d'être trouvé en lui. Là, il parle en Jésus-Christ. Non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Amen. Sa justice ne vient pas de sa propre justice, et dans les œuvres que Paul décrit juste au verset précédent, du verset 9, mais Paul déclare bien que sa justice vient de Jésus-Christ et de son œuvre à la croix. Jésus a rendu la justice en prenant sur lui la colère de Dieu. Jésus a rendu la justice en prenant sur lui tous nos péchés, passés, présents et futurs. C'est pour cela que Jésus se définit comme le seul chemin vers la vie éternelle. Alors ceux et celles qui veulent éviter la colère éternelle de Dieu doivent croire en Jésus-Christ. Ce choix se propose à chacun tant qu'il est vivant. Mon éternité, votre éternité, notre éternité se détermine pendant notre vie terrestre. Car une fois que nous sommes morts, il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. Nous avons dans la parole l'exemple de Noé, de sa famille, de l'arche que Dieu a demandé à Noé de construire. Et tant que la porte était ouverte, quiconque pouvait rentrer et être sauvé du déluge. Il en va de même aujourd'hui pour le salut de chacun. Nous avons vu que Dieu est un Dieu éternel, et cela veut dire que nous allons passer soit l'éternité dans sa présence, dans sa bienveillance, dans son amour et surtout dans sa justice, parce qu'elle a été rendue en Christ, ou soit nous allons passer l'éternité avec Dieu, mais sous sa colère. Comme on l'a dit, Dieu est omniprésent, et je pense que Dieu est aussi présent en enfer, mais il est présent avec sa colère. Puisque nous qui avons reconnu l'œuvre de Christ, nous avons reconnu que Jésus-Christ nous a fait justice, qu'il a pris nos péchés, et donc que la colère de Dieu s'est détournée de nous. Alors oui, Dieu est éternel, et cela implique aussi que nous devons chacun réfléchir pour notre éternité future avec lui. Alors gloire à Dieu, parce que ce matin encore, Dieu fait grâce. Comme je l'ai dit, la porte n'est pas encore fermée. Mais dans la parole de Dieu, il est dit que ceux qui entendent sa voix aujourd'hui se tournent vers lui, se repentent et l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Dieu s'est défini comme « je suis ». Et Dieu, quand il parle aujourd'hui parce que demain n'existe pas. Et demain n'existera peut-être pas pour vous, parce que peut-être que Dieu vous aura repris sur cette terre, ou peut-être que Jésus-Christ sera revenu et aura pris son Église. Alors oui, nous avons le choix de savoir où nous voulons passer l'éternité, et ce choix se décide maintenant, pendant que la porte est encore ouverte, pendant que nous pouvons encore accepter par la foi, comme nous l'avons lu, dans Philippiens 3, verset 9, on va le relire. « Mon désir est d'être trouvé en lui, en Jésus-Christ, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde comment à ceux qui croient. » Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie spirituelle. Dieu le sait, vous le savez. Mais ce matin, s'il y a quelqu'un, s'il y a une personne qui a besoin de faire ce choix, qu'il le fasse. Parce que Dieu a déjà tout payé et que Dieu a déjà versé son sang afin que vos fautes soient effacées, que vos fautes soit effacée par le sang de Jésus-Christ. J'aimerais terminer en lisant un texte dans Jérémie, au chapitre 9, et les versets 22 et 23. Jérémie, chapitre 9, versets 22 et 23. L'Éternel dit ceci, « Que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agit avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre. Car ce sont là les choses qui me font plaisir, l'Éternel le déclare. » Amen. Nous voyons dans ce passage combien Dieu est bon, combien Dieu est bienveillant, combien Dieu veut accorder son pardon, son amour aux êtres humains qui l'ont rejeté. Mais nous voyons aussi que Dieu est juste et que Dieu est droit. Et comme nous venons de le voir juste avant, Dieu fera justice d'une façon ou d'une autre. Mais choisir Jésus-Christ, c'est choisir une justice qui a déjà été rendue. Ne pas croire en Jésus-Christ et à son œuvre à la croix, c'est se condamner et vivre pour l'éternité sous la colère de Dieu. Et en résumé, c'est ça, la bonne nouvelle. C'est ça, l'évangile qui veut dire bonne nouvelle. C'est que Christ est venu pour des pécheurs comme moi, comme vous, pour des êtres infidèles, des êtres loin de Dieu, qui ne le cherchaient même pas. Mais Dieu, dans son amour, s'est incarné en homme. Et ce qui veut dire qu'il vous comprend, qu'il nous comprend, qu'il sait ce par quoi vous passez, qu'il connaît vos incompréhensions, qu'il connaît vos doutes. Et Dieu, qui est fidèle et juste, peut vous aider à travers sa parole, à travers sa méditation, comprendre qui il est, comprendre la richesse de sa gloire, la richesse de son amour, la richesse de sa fidélité. Je vous propose de prier pour terminer.